Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Alors, nous sommes avec Valérie Grenier-Hamel, gérante des pompes funèbres à La Coquille depuis 2 ans, avec Laurent, son conjoint. Valérie, bonjour.
Bonjour.
On ne choisit pas les pompes funèbres par hasard. Quel a été votre point d'entrée dans ce métier ?
Ça a été une reconversion professionnelle après plusieurs années, notamment en tant que commercial en grande distribution, où je cherchais un métier en rapport avec l'humain, me recentrer sur des choses importantes.
Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez déjà envisagé d'exercer ce métier quand vous étiez plus jeune.
Oui, à 18 ans, en fait, je m'intéressais à ce métier de pompe funèbre. Et ma mère m'a gentiment dit que c'était pas un métier pour moi, que j'étais un peu trop sensible pour exercer ce métier. De ce fait, j'ai laissé tomber et je suis partie vers une autre voie.
Qu'est-ce qui, jeune, vous avez attiré vers cette profession ?
Je sais pas du tout. Je sais pas. C'est pas un deuil. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se font la reconversion en pompe funèbre suite à un deuil, à un enterrement qu'ils ont vécu. Ça n'a pas été mon cas, pas du tout. Non, c'était l'envie
de découvrir.
Oui, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a convaincu que vous vouliez en faire votre activité principale ? Parce que vous me disiez que vous travailliez dans la grande distribution.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné ce déclic à 38 ans ?
Un changement de vie à 38 ans. Les choses de la vie, un divorce. Et du coup, j'ai voulu évoluer vers d'autres choses.
Oui, puis bon, comme vous me disiez, à 38 ans, on a peut-être plus on prend peut-être plus de liberté pour assumer les choix de ces choix professionnels. Et vous avez profité pour vous lancer ?
On essaye de prendre plus de liberté, oui, par rapport à la vie de nos parents, peut-être. Et de trouver un sens à son existence. Ouais.
Quelle a été la plus grande idée reçue sur votre profession ? Comment votre entourage a perçu votre choix quand vous avez décidé de vous orienter là-dedans ?
Il n'a pas forcément été compris. Puisque quand j'ai fait ma reconversion, déjà, on ne parlait pas beaucoup de femmes dans les pompes funèbres. Ça s'est beaucoup développé depuis. C'était un métier principalement masculin à l'époque. Je parle comme une vieille. Mais ça s'est développé, c'est une très bonne chose. On est quand même complémentaires par rapport aux hommes. Pas forcément compris par ma famille parce que il y avait toujours ce côté très sensible de ma part. Je pense que les gens ne me voyaient pas forcément capable de le faire en fait.
On parle peu du fait que les pompes funèbres sont avant tout une entreprise. Comment vous diriez que se structure votre activité ? Quel service avez-vous, vous, au sein de votre entreprise ? Qu'est-ce que vous proposez et comment ça se passe quand on franchit la porte de votre, est-ce qu'on peut appeler ça une agence, un cabinet
On parle d'une agence. C'est vrai que malgré tout, il faut être quand même conscient du fait que ça reste une entreprise, qu'on a des charges et qu'il faut savoir payer toutes ces charges. Maintenant, l'avantage qu'on a, nous, on travaille à deux avec mon mari. On prend le temps, on s'adapte aux gens, on est une petite structure. Et on n'a pas non plus de charges énormes par rapport aux grands groupes qu'on connaît.
Et alors du coup, quel service avez-vous au niveau de votre agence ? Est-ce que vous avez un service de thanatopraxie ? Est-ce que vous avez combien de salariés ? Est-ce que vous avez ? Est-ce que vous travaillez seul avec votre conjoint et vous faites appel à des prestataires indépendants ? Comment ça se passe ?
On travaille principalement à deux. Mmh. Avec mon conjoint. Après, on a des vacataires, des porteurs qui nous aident selon nos besoins. On a également un thanatopracteur qui vient faire les soins et une entreprise de marbrerie qui nous aide quand mon mari ne peut pas faire les travaux lui-même.
D'accord. Et alors, vous me disiez avant que votre mari était fossoyeur, c'est ça ?
Oui.
Et donc ça, c'est un métier qui finalement n'existe plus tellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ce métier existe encore en tant que fossoyeur pur dans les grandes villes, mais dans les petites communes, en fait, il ne dépend plus de la mairie. C'est maintenant les pompes funèbres qui sont en charge de faire cette partie du métier.
Donc moi, si un de mes proches décède, j'appelle les pompes funèbres et c'est vous qui êtes habilité, avec accord, à venir chercher le corps, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que le métier des pompes funèbres est très réglementé, qu'on a des habilitations préfectorales qui sont accordées. Donc on se rencontre, il faut signer quelques documents avant qu'on puisse intervenir pour aller chercher effectivement la personne décédée.
Et alors après, comment ça se passe ? Vous allez chercher le corps et après, qu'est-ce qui se passe pour le défunt ? Et comment ça se passe pour l'accompagnement des familles ?
Donc après, on organise les funérailles. Il y a plein de questions, plein d'interrogations qui sont amenées à être posées, notamment la présentation ou pas en salon. Le soin de conservation qui, je le rappelle, n'est pas obligatoire, on peut procéder juste à une toilette, le choix de l'inhumation ou de la crémation et des cérémonies religieuses ou civiles.
Alors j'ai jamais eu, par chance, touche du bois, encore à vivre ça, mais j'ai toujours remarqué que ça se passait relativement rapidement, en fait, la prise en charge, l'accompagnement. Est-ce que vous aidez aussi ? J'ai pu voir des services qui s'étaient développés au fur et à mesure du temps par rapport aux funéraires. Est-ce que vous accompagnez aussi les familles par rapport à tout ce qui est administratif, dans toutes les démarches qu'elles doivent entreprendre une fois que la personne est décédée ? Comment ça se passe ?
Après décès, les services après décès.
Oui.
Tout ce qui est documents administratifs. On a un service effectivement qui on met en contact les familles avec un service qui s'occupe de tous ces problèmes administratifs, notamment tout ce qui est retraite, sécurité sociale, les pensions de réversion.
Donc c'est vraiment un accompagnement de A à Z pour les familles.
Oui.
Et donc aujourd'hui, la personne décède, vous faites appel à un thanatopracteur.
S'il y a un soin de conservation, effectivement, on fait appel à un thanatopracteur. Sinon, si c'est une toilette, on occupe nous-mêmes.
D'accord. Et vous avez aussi, vous me disiez, des porteurs pour les cérémonies, ouais. Donc des vacataires, c'est ça ?
Des vacataires, oui, oui, qui sont disponibles. Alors, généralement, c'est des retraités. On ne peut pas pour l'instant développer des emplois fixes. Donc c'est soit des retraités, si on a des retraités, et on a des conducteurs de bus aussi.
D'accord.
Qui font ça en complément d'activité.
D'accord. Et pour tout ce qui est tout ce qui concerne les caveaux, qui s'en occupe ?
Pour la pose de caveau ?
Oui.
Pour la pose de caveau, donc c'est le marbrier avec qui on travaille. Pour les ouvertures de caveaux, c'est mon mari.
D'accord. En fait, c'est le travail qu'il faisait au préalable quand il était fossoyeur. Il continue finalement à le faire au sein de votre agence.
Oui.
Parce qu'un fossoyeur, c'est ce qu'il fait, c'est ça ?
Oui, un fossoyeur, entre autres, c'est ce qu'il fait, oui, effectivement.
Quels sont les principaux postes de dépenses dans votre secteur ? Vous devez faire appel, du coup, à un fournisseur pour la création de cercueils ?
Un fournisseur, effectivement, pour les cercueils, pour les capitons, pour tout ce qui est plaques en magasin. Et après, on a toutes les charges que les entreprises ont.
Hein, le oui, site les internet, entreprises communes, oui.
L'EDF, l'eau, etc., etc., l'URSSAF.
Est-ce que vous avez une pièce au sein de l'agence où vous avez une exposition de cercueils pour choisir, non ?
Non, non, ça se fait sur photo.
D'accord. Et alors, comment se construit un modèle économique dans un métier aussi sensible que le vôtre ? Parce que j'imagine que c'est difficile de faire un prévisionnel en spéculant sur le nombre de morts et de clients.
Donc effectivement, il n'y a pas de prévisionnel. Hein. C'est compliqué de savoir combien il va y avoir de décès. Puis bon, malgré tout, on ne les souhaite pas.
Hein.
Oui. On pourrait me le dire, on travaille dans ça.
Vous ne vous dites pas youpi ?
Non, c'est pas youpi. Non. Même si on sait que 100% des personnes passeront par là, on n'espère pas le malheur
des gens.
Des gens. Donc on se développe sur d'autres secteurs, sur la vente de plaques en magasin, sur les réparations de caveaux, sur les nettoyages, sur les fleurissements, sur la pose de caveaux.
Oui, vous diversifiez votre activité pour pouvoir pallier à ce prévisionnel qu'on ne peut
voilà,
pas faire.
Exactement.
Et alors, est-ce que du coup, j'imagine que votre rapport à la mort est plutôt... Enfin, vous êtes plutôt à l'aise quant au fait de pouvoir parler de la mort. Est-ce que vous sensibilisez vos proches au fait, les gens autour de vous, à s'en préoccuper de leur vivant pour, est-ce que vous êtes confrontés souvent à trop de familles qui n'ont pas anticipé ces problématiques et qui se retrouvent un peu dans l'embarras le jour où ça arrive ou pas particulièrement ?
Si, effectivement, les Français en général n'aiment pas parler de la mort et n'anticipent pas ce phénomène qui pourtant est obligatoire dans la vie. On en parle, on nous en parle, hein, parce que nous on est très ouverts, on fait plein de choses et du coup les gens viennent simplement nous parler de choses. On leur répond simplement également.
Et alors, comment ça se passe, par exemple, si moi... parce que, par exemple, moi, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Comment je dois m'y prendre si je veux anticiper ma mort ? Est-ce que vous avez, par exemple, des fois, des personnes qui viennent vous voir et qui disent, voilà, le jour où je décède, je veux que ça se passe comme ça et comme ça, et qui payent au préalable ou qui prennent... Est-ce que vous vendez aussi des assurances obsèques ou des choses
oui,
comme ça ?
Oui, alors, ça s'appelle des contrats obsèques. Qui ont valeur testamentaire, hein, c'est-à-dire que la personne de son vivant vient nous voir, nous indique comment elle souhaite organiser les obsèques, choisissent des musiques, choisissent tout en fait, le cercueil, leur capiton, s'ils veulent une cérémonie ou pas, ils peuvent tout noter, ça aide énormément leur famille. Ils payent, alors pas directement aux pompes funèbres, hein, puisque au cas où le pompe funèbre
ferme,
travaille avec des prévoyances, hein,
des assurances.
Oui. Elles peuvent à tout moment changer leur pompe funèbre si jamais il y a des accords ou si jamais elles déménagent. Et ça enlève un gros poids aux familles, puisque. Seulement dans ce cas-là, les pompes funèbres interviennent sans demander aux familles de signer des papiers, de devoir faire des choix assez compliqués. C'est ce qui devrait être obligatoire en France. On a une assurance maison
oui.
Au cas où il arriverait quelque chose. On a une assurance voiture au cas où il arriverait quelque chose. La seule chose dont on est certaine dans la vie, c'est que
la mort arrivera,
c'est qu'on va tous mourir, et on devrait anticiper pour faciliter le deuil des familles, en fait.
C'est vrai, mais je pense que la mort terrorise beaucoup de personnes et que je vais citer quelqu'un qui disait parler de la mort ne fait pas mourir. Mais c'est vrai que je me suis déjà posé la question de savoir s'il faudrait quand même que... Parce qu'à mon âge, on se dit qu'on vivra encore quelques années, sauf qu'en fait, on n'en sait rien.
On l'espère.
Voilà. Et donc, c'est toujours plus prudent de s'en préoccuper maintenant. Et est-ce que, par exemple, si je me préoccupe de ma mort aujourd'hui à 32 ans et que je paye une assurance obsèque... Du coup, je vais la payer jusqu'au jour de ma mort et ça va me revenir bien plus cher que
non,
si je m'en préoccupais
non,
plus vieille.
Non, il y a plus de, on ne paye plus jusqu'au jour de sa mort. Il y a des délais, hein, 10, 5, 10, 15, 20 ans. Et il y a même des assurances quand si le paiement n'est pas
fini,
n'a pas été fini, si vous décédez malheureusement avant, il y a des assurances qui se mettent en place pour prévoir totalement les obsèques.
D'accord, parce que du coup, voilà, la question qui en débouche, c'est, admettons, je contracte une assurance obsèque sur 5 ans, je meurs au bout de 3.
C'est pris en charge, il faut un an,
d'accord.
Il faut un an de paiement pour... C'est des formes d'assurance.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Non, entendu.
Après, si vous faites une assurance obsèque à 32 ans et que, je vous le souhaite, vous décédez à 102, 110 ans... Il y a un certain prix qui auront été modifiés.
Oui.
Mais ce que vous avez déjà souscrit sera déjà là, quoi, en fait.
Oui.
puisqu'on ne peut pas être responsable des hausses des matières premières, des hausses des prix des crématoriums, de plein de choses.
Le problème, c'est que si je choisis ma tenue à 32 ans, c'est pas dit que je rentre encore dedans à 102.
C'est le problème. Vous pourrez donner des couleurs, donner des indices à votre famille, mais c'est sûr que...
Comment est-ce que vous gérez la transparence des tarifs qui est souvent critiquée dans votre secteur ?
Alors, c'est effectivement critiqué, mais c'est très réglementé. On a l'obligation d'avoir une documentation générale à disposition des familles, donc où les familles peuvent, sans rien signer, la consulter.
D'accord, oui, c'est ce que je vois poser sur votre bureau, une documentation générale, un petit classeur avec, voilà. C'est quoi, c'est les prix à l'intérieur ?
Qui regroupe tous nos tarifs.
D'accord. Est-ce que la concurrence est forte en Dordogne par rapport à votre secteur d'activité ?
La concurrence, non, elle n'est pas forte. Nous, à La Coquille, il y a deux pompes funèbres. Par rapport aux grandes villes, dans les petites villes comme nous, ça reste raisonnable. Mais la concurrence reste, je pense, indispensable. Ce serait trop simple qu'un pont funèbre ait le monopole et puisse faire tout et n'importe quoi.
Oui, ça permet d'avoir un équilibre au niveau des prix, j'imagine.
Exactement. Oui. Oui. Et puis, il faut laisser le choix aux familles, surtout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et quand il n'y a qu'un pont funèbre et qu'on n'a pas le choix, ça peut frustrer certaines familles. Ouais.
Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre activité ?
Non, pas forcément.
Non, pas plus de morts en hiver qu'en été.
Non, 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 non.
Alors, vous parliez tout à l'heure de réglementation. Alors, c'est une question un petit peu naïve, mais est-ce qu'il y a une réglementation concernant le nombre de pompes funèbres qui doivent être ou peuvent être présentes dans une ville, un village, tout comme le peut être une pharmacie. C'est-à-dire...
Pas du tout.
D'accord.
Non. Après, c'est, je pense... selon l'accord des mairies, comme implantation, comme toute entreprise, je ne sais pas. Mais non, on n'est pas, il n'y a pas un numerus clausus comme les pharmacies,
d'accord,
selon le nombre de personnes habitant.
Sur le secteur. Contrairement à ce que l'on pense, le Covid ne semble pas avoir été une période évidente pour le secteur du funéraire. Je sais que vous, à cette époque, vous n'aviez pas encore monté votre agence, mais vous travailliez dans un crématorium. Qu'en a-t-il été pour vous à cette période ? Qu'est-ce que vous avez analysé ?
Ça a été une période assez compliquée pour le métier des pompes funèbres parce que la réglementation changeait tous les jours. Personne aux enterrements, 10 personnes aux enterrements, 50 personnes séparées d'un mètre, des familles qui se côtoyaient tous les jours, notamment à l'église ou au crématorium, il fallait qu'ils soient séparés d'un mètre. Quand on perd quelqu'un, je pense qu'on a besoin d'être entouré, d'avoir nos amis autour de nous. Et c'était compliqué pour les familles qui, de ce fait, se reportaient un petit peu sur nous. Ça a été aussi compliqué professionnellement parce qu'en fait, c'est vrai que on applaudissait tous les soirs
les infirmiers,
les soignants, mais en fait on n'applaudissait pas les gens qui étaient dans l'ombre. C'est un peu le problème du funéraire, c'est que en fait les gens qui sont dans l'ombre, qui sont là pour les défunts, sont pas réellement considérés. Ces problèmes, ça a été le problème du Covid, ça a été le problème aussi des attentats, notamment les attentats de Nice,
oui. Ah oui.
Où il y a eu des rangées complètes de pompes funèbres qui sont venues ramasser les personnes qui étaient décédées. Et ça a été caché, tout ça.
C'est vrai qu'on parle très très peu. Enfin, ça se démocratise sur des podcasts, etc., sur les réseaux sociaux de plus en plus, mais c'est vrai que aux informations ou voilà, de façon générale, quand même, on parle très peu de votre métier, de ce que ça implique et de ce que vous faites.
Voilà, oui. Alors ça se démocratise effectivement sur Internet, peut-être trop, à mon goût. Il y a des choses que on n'a pas forcément besoin d'entendre, de savoir, oui, mais d'entendre quand on n'a pas envie de le savoir, c'est pas forcément utile. Il faut savoir que, en fait, les pompes funèbres interviennent quand les personnes sont décédées. Donc, tout ce qui est ambulance, pompiers, ça on le sait pas, hein, dans les films, c'est généralement les ambulances ou les pompiers qui viennent chercher les défunts. Mais non, en fait, ils n'ont pas le droit de prendre des défunts. C'est vraiment les pompes funèbres qui interviennent quand la personne est décédée.
Mais j'ai appris
dans tous les cas.
Oui, j'ai appris que vous étiez les seuls habilités à transporter des corps morts. Puisque dans vos véhicules, sauf si éventuellement les pompiers transportent un être humain encore vivant et qu'ils décèdent dans leur camion.
En théorie, ils doivent s'arrêter.
D'accord.
Ils ne peuvent pas, les pompiers c'est pour les vivants.
D'accord.
Ils ne peuvent pas, en théorie, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital avec une personne décédée, ils doivent s'arrêter.
Et alors, parce que moi j'ai toujours vu dans les films ou dans les reportages que justement quand on vous rentrait dans le camion d'un pompier la tête avant ou alors les pieds devant, on pouvait savoir si la personne était décédée. Mais moi j'ai souvenir de voir qu'il y avait déjà eu des corps qui avaient été entrés dans un camion de pompier les pieds devant, et donc que du coup alors est-ce que c'est des mises en scène qui ne sont pas...
C'est des mises en scène des films, effectivement, mais en théorie, ouais, c'est ce que je vous dis. Les pompiers, en fait, c'est pour les personnes vivantes.
On va parler un petit peu plus de votre relation aux familles. Qu'attendent vraiment les familles quand elles franchissent votre porte ?
Ils attendent un accompagnement, ils attendent de l'écoute, de l'aide.
Comment vous trouvez la juste distance, vous, entre empathie et professionnalisme quand vous les recevez ?
Je pense que on aime profondément les gens, on aime profondément l'humain. On a forcément de l'empathie. Hein, on reste malgré tout des personnes avec des sentiments, mais c'est ce qui fait notre plus, quoi. C'est pas...
Est-ce que c'est un métier, vous direz, qui demande plus d'écoute que de parole ?
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Comment est-ce que vous gérez, vous, les situations de tension ou de désaccord entre les proches quand ils viennent vous voir ?
Par l'écoute, par la compréhension. On comprend chaque situation, on n'entre pas dans les détails, en fait. Faut faire comprendre aux gens, et je pense qu'ils le comprennent très bien, qui sont là pour accompagner la... S'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour accompagner la personne qu'ils aiment. Donc, qu'il faut savoir prendre un peu de recul sur tous les désaccords qu'ils peuvent avoir, et puis passer outre pour la personne.
Et alors, comment vous faites ? Parce que vous faites quand même un métier où vous êtes confronté en permanence à la tristesse des gens et à la mort. Vous, émotionnellement, comment vous le gérez, ça, quand vous rentrez chez vous ?
On a l'avantage de travailler en couple avec mon mari. Donc on discute beaucoup.
Et ça passe.
Ouais, ça passe. Ça passe, non, mais après, on aime la vie, on aime les gens. On prend ça plus comme un accompagnement, en fait.
Oui. Vous arrivez quand même à ne pas absorber la tristesse des gens quand ils viennent vous voir ?
On arrive à pas toujours absorber la tristesse des gens. Ça arrive qu'il y a des situations qui soient plus compliquées que d'autres, hein, qu'on se projette, qu'on fasse des personnes qu'on apprécie. Mais on reste humain. Et puis, j'ai envie de vous dire que même si des fois on verse une petite larme, la famille peut comprendre, en fait, qu'on a des sentiments et que malgré tout, ça nous touche. Non, mais heureusement,
bien sûr.
Il y a quand même une part de sensibilité et d'humanité qui est importante dans ce métier.
Est-ce que, par exemple, des fois, on vous a demandé de mettre des choses dans le cercueil un petit peu saugrenues pour en souvenir, comme on pouvait faire avec les pharaons, leur laisser des trucs dans les cercueils Est-ce que c'est arrivé pour des défunts ?
Ça se fait, alors toujours dans la réglementation, attention, puisqu'on ne peut pas tout mettre dans le cercueil, mais on a déjà eu un monsieur qui voulait être dans son cercueil, dans ses draps de mariage, donc on l'a mis dans ses draps de mariage. Il voulait être sur son côté droit, parce que monsieur dormait toujours sur son côté droit, donc on avait l'impression qu'il dormait, effectivement.
Ah, génial ! C'est beau ?
Oui, c'est beau. Après, il y a des personnes qui mettent des chocolats, parce que la personne aimait le chocolat, des paquets de cigarettes. Il y a d'autres choses saugrenues hein, que je cacherais, ce n'est pas forcément arrivé à moi, mais à d'autres personnes. Il y a, si, après, voilà, une petite fille qui est partie dans sa robe de princesse et tous ses petits bijoux en toc. Hein, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier.
Oui, j'imagine. Mm. Oui. Bah, de toute façon, dès que ça touche un enfant, déjà, c'est...
C'est le plus compliqué.
Oui. J'allais dire, je ne sais pas si on s'habitue à ça, surtout que...
Non, non, non. Je peux vous dire tous les prénoms des enfants que j'ai malheureusement dû inhumer.
Crémation, personnalisation des cérémonies, digitalisation. Est-ce que vous voyez une transformation profonde du secteur? Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un cimetière pour animaux qui se crée à Périgueux. Est-ce que vous avez des demandes? Je voyais toujours, pour citer le salon du funéraire, mais des cercueils en champignons, dégradables, en carton, tout un tas même d'innovations qui sont faites autour de tout ce qui est pierre tombale, etc., etc. Qu'est-ce que vous constatez, vous, de votre côté?
À la coquille, en tout cas, la crémation n'est pas forcément la plus répandue. Mmh. Ça commence un petit peu, mais ça reste minoritaire par rapport aux inhumations. Pourquoi? Parce qu'il y a des caveaux de famille qui sont installés depuis des générations et des générations, et du coup, ça permet aux familles de se regrouper. Les cercueils tels que cercueils champignons, c'est amené à être développé, mais c'est pas encore autorisé en France. Ça se développe dans les pays nordiques, mais en France, on n'est pas encore à ce stade-là. Les demandes particulières, oui, ça peut être des cercueils, comme je disais tout à l'heure, en osier tel que celui de Brigitte Bardot, ou des cercueils de couleur, en fait. On peut faire toutes les couleurs maintenant de cercueil.
Ne me dites pas qu'il y en a qui ont voulu avoir le drapeau de l'OM sur un cercueil.
Si.
C'est vrai
oui, même l'OM, Paris Saint-Germain, Lens. si, on peut tout faire hein, sur les cercueils. En fait, on prend un cercueil de base et il peut être recouvert d'un autocollant.
Ça, c'est, d'accord.
Je sais pas, au salon du funéraire. Tout se fait, tout se fait, même maintenant les monuments en verre, où on peut personnaliser de A à Z le monument, les plaques funéraires, on prend un dessin d'enfant, on peut le faire graver sur le monument en verre. Si, tout est...
Ah, c'est dingue.
Il y a plein de choses, en fait, mmh. qui se développent sur le funéraire, qui permettent de colorer un petit peu les cimetières.
Est-ce que c'est quelque chose que vous développez ou dont vous devez tenir compte pour toujours être au fait au niveau de votre agence, de continuer à pouvoir suivre le changement, de voir ce qui se fait, d'être source de propositions si le cas se présente?
Oui, on a développé, nous on travaille beaucoup avec des plaques en alu, ça compense les plaques en granit qui, force des années, soit se casse, soit pâlisse un peu. Les plaques en alu, ça ne bougera jamais. Et on peut faire vraiment ce qu'on veut sur ces plaques alu. On va également poser prochainement un monument en verre dans une commune proche. C'est un peu innovant dans le coin, hein, où on est très, très traditionnel. Mais ça permet... Enfin, pour moi, l'art funéraire est... On adore les cimetières. c'est des musées à ciel ouvert et pour nous en tout cas, on voit des choses absolument magnifiques et ça permet de diversifier un peu, ouais. Donner de la vie aux cimetières.
Oui.
Il n'y a pas qu'à la Toussaint, il faut que ce soit plein de couleurs.
Est-ce que vous diriez que l'écologie c'est devenu un enjeu dans les obsèques? Parce que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus recherché à travers la dégradation, par exemple, des matériaux dans lesquels on met les corps. Est-ce que c'est juste un hobby passager ou est-ce que ça, vous pensez que ça va être la tendance prochaine?
C'est de tendance, hein, puisque les personnes, effectivement, parlent de plus en plus d'écologie. Nous, à notre niveau, on estime l'être du fait que ben, les cercueils sont soit en chêne, pour tout ce qui est inhumation, soit en pain pour les crémations. Ça, c'est le choix qu'on a fait. Après, comme je vous disais, de toute façon, dans tous les cas, il faut un cercueil. Le soin de conservation reste important pour les familles, mais malheureusement, pas très écologique, quoi.
Oui. D'accord. Le fait, vous dites le soin de conservation, c'est le fait de...
D'injecter des,
du formol du,
alors, c'est un dérivé de formol, hein, c'est plus du formol. Mais oui, c'est pas écologique dans le sens où après la personne est inhumée et puis.
Ah, je savais pas que c'était.
Ce produit après est diffusé. Après, c'est important pour les familles de revoir leurs défunts. C'est quand même des artistes, hein, les thanatos. C'est pareil, on parle pas beaucoup d'eux. Nous, c'est une jeune fille qui a. Elle a même pas 25 ans hein, qui fait ça. C'est une passionnée. Hein. Et elle rend les défunts absolument magnifiques. Quoi. C'est, la famille, ça permet aux familles de retrouver leurs défunts comme ils l'ont connu.
C'est fou, même pas 25 ans et elle
ouais.
fait ça.
Wow. Ah oui, mais c'est une artiste. Hein. On l'aime bien, on la garde.
Incroyable.
Ouais.
Est-ce qu'on s'habitue à côtoyer la mort ?
On ne peut pas s'habituer à côtoyer la mort. Le jour où on s'habitue à côtoyer la mort, faut changer de métier, pour moi. On est là pour accompagner les familles. On est là pour les soutenir, principalement.
Et est-ce que ce métier, ça a changé votre rapport à la vie ?
Oui. Oui, oui. On essaye de profiter un maximum de la vie. On fait plein de choses. On vit simplement, mais intensément, en fait.
Est-ce qu'il y a encore des moments qui vous marquent personnellement ?
Oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand c'est des amis, quand c'est des enfants, on ne s'habitue jamais. Quand c'est des personnes jeunes.
Oui. Qu'est-ce qui vous donne, vous, le sentiment d'avoir bien fait votre travail ?
Juste un merci des familles.
Oui.
Il n'y a pas besoin de plus de discours que ça, parce que... c'est notre travail, mais en fait, nous, on accompagne les gens comme si c'était notre propre famille.
Mmh. Vous essayez de les soulager de cette charge.
De toute façon, en tant que pompe funèbre, on est là pour soulager les gens, pour les aider, être avec eux, mais tout en restant discret. En fait, on ne peut pas prendre la peine de tout le monde.
Mmh.
On est à notre place, mais on essaye de bien faire les choses.
Je pense qu'il y a quand même, vous me le direz, mais une certaine satisfaction à pouvoir apporter. C'est pas donné à tout le monde que de pouvoir faire ça pour quelqu'un.
Alors oui, effectivement, il paraît que c'est pas donné à tout le monde, mais nous, ça nous semble tellement normal. En fait, je pense que pour faire ce métier, ben, il faut aimer. Alors ça fait bizarre hein, de dire ça. Faut aimer ce métier, mais faut aimer les gens en fait. Pour moi, pour faire ce métier correctement, il faut être proche des gens. Il faut aimer la vie pour pouvoir accompagner les gens dans la mort.
Alors, je vous propose de déconstruire deux préjugés que les gens peuvent avoir de façon générale sur l'activité que vous faites. Le premier, le secteur dans lequel vous travaillez est souvent perçu comme très lucratif. Est-ce que c'est une réalité selon vous ?
C'est peut-être une réalité dans les gros groupes qui sont dirigés par des financiers, mais pas pour des petits pompes funèbres comme nous, indépendants.
Parce que bon, voilà, ce que parfois certaines personnes peuvent se dire, c'est que les pompes funèbres ont tendance à...
On profite du malheur des gens.
Exactement.
Oui. Après, on reste une société, il faut faire tourner notre société. Comme on disait tout à l'heure, on a des charges aussi. Donc, et puis il faut qu'on en vive, hein, parce que c'est malgré tout notre gagne-pain. Mais à notre niveau, non, on veut vivre simplement et puis juste être là. Et ça reste malheureusement une société à faire tourner.
Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'on arrive à rire dans votre secteur d'activité ? Est-ce que le rire n'est pas une façon de dédramatiser certaines situations ?
On arrive à rire et heureusement... on arrive effectivement à faire rire les familles, à se souvenir ensemble de choses. Ça les fait rire, oui, et à célébrer la vie.
Par rapport à des anecdotes que vous pourriez avoir, est-ce qu'il y a une cérémonie qui vous a surprise par sa beauté ou son originalité ?
Chaque cérémonie est différente parce qu'apporte les familles, c'est important. que les familles nous apportent des éléments qui permettent de personnaliser un maximum la cérémonie. On a eu des chants, on a eu des danses. C'est même une petite anecdote où la grand-mère d'une de mes amies, grande dame de Boulogne, j'aime à le dire, Boulogne-sur-Mer, qui avait fait promettre à tout le monde de passer les sardines au cimetière en leur disant ben, « je suis sûre que vous ne mettrez jamais cette musique-là ». Et ben ils l'ont mis et puis ça nous a fait tous sourire. On peut tout mettre hein, comme musique, en tout cas au cimetière, à l'église c'est un peu plus compliqué, mais on peut tout mettre. On a déjà mis du Charleston, on a déjà mis...
Et est-ce qu'il y a déjà eu cette... Alors, parce que ça c'est déjà fait, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé en France, mais que le défunt veuille que pour le jour de sa mort, il puisse faire la blague en toquant. Comme si
ça s'est fait en Angleterre ou aux États-Unis, ouais. Ça, non, j'ai jamais eu le cas. Après, ça, faut quand même rester. Enfin, pour les familles, ça peut.
C'est peut-être un peu traumatisant, ouais, hein, c'est un petit peu particulier.
Oui, il faut avoir un humour assez particulier.
Est-ce qu'il y a déjà eu une situation ?
Mais on a déjà eu. Enfin, moi, j'ai un de mes collègues qui a déjà eu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez parce que vous êtes un peu jeune. La denrée.
Non.
La soupe aux choux.
Oui.
Voilà. Quelqu'un qui a rendu hommage donc au cercueil en faisant en déguisé en la denrée.
Ah oui, d'accord.
Et en faisant. donc
il y a tout.
Chacun fait son deuil comme il le souhaite et surtout on ne juge personne. C'est des fois les familles nous disent mais vous allez nous prendre pour des fous. On aimerait ça, elle voulait ci, elle voulait ça. Non, parce que chacun fait son deuil. Il n'y a plus rien qui nous choque.
Oui.
On a, je pense, vu tellement de choses et puis accepté tellement de choses. Toujours avec la réglementation, attention, parce que si les personnes ont besoin de danser, de chanter, il n'y a rien qui nous choque.
Est-ce que vous avez déjà eu à intervenir sur des morts saugrenues, des morts particulières, ou alors où quelqu'un se trouvait, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, mais en fait, l'homme était chez sa maîtresse et la femme ne le savait pas, des choses comme ça? Non, ce n'est pas des choses qui...
Ça arrive, mais ça ne nous est jamais arrivé.
Oui.
Mais ça arrive.
Ouais. Ça doit être terrible. Ouais. Qu'est-ce que c'est les causes principales des morts que vous avez ?
Ici ?
Oui.
En Dordogne, c'est vraiment l'usure du temps.
D'accord. C'est pas la maladie ou... Enfin...
Ah non. On vit très bien en Dordogne.
Ouais.
Et c'est une très bonne chose puisqu'on y est maintenant. Non. J'ai fait la moyenne d'âge l'année dernière, on était à 87 ans.
Ah, bah c'est chouette.
Tous les décès que j'avais faits. Donc, on vit très très bien et dans de bonnes conditions.
Ah, bah c'est bien.
Ouais.
Alors, j'allais dire, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Mais alors, qu'il y ait beaucoup de morts, pas tant finalement, ça vous plaît ?
Pas tant parce que j'aime la vie, j'aime profiter et. Non.
On a tendance à dire que c'est un secteur qui ne connaîtrait pas la crise parce qu'on meurt tous, mais finalement, je pense que ce n'est pas si évident que ça. Parfois. Alors, sauf si on est ouvert à l'international avec toutes les guerres qui existent, mais comme vous le disiez, finalement, la durée de vie ici est plutôt, plutôt longue.
Bon, on est là quand il le faut, et puis on continue de faire notre petit bonhomme de chemin en attendant, quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Valérie, et à très bientôt.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.